Il est 8h16 sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Attali. L'avantage avec vous, Jacques Attali, c'est que d'une demi-heure à l'autre, on peut vous présenter de manière extrêmement différente. Vous êtes essayiste, ancien conseiller de François Mitterrand. Qu'est-ce que j'ai retenu sur votre site? Diplômé de l'École des Mines, de l'ENA, Polytechnique, de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez donc publié quelques semaines de cela chez Fayard. Peut-on prévoir l'avenir? Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Fourest et de Brice Couturier et d'Agnès Van Zanten. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue, spécialiste des questions d'éducation. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez publié l'an dernier au PUF, dans la collection Que sais-je, les politiques d'éducation. Et vous participerez à un numéro, alors, qui va sortir d'ici le mois d'avril. Donc on a encore un petit peu de temps, de l'année sociologique. C'est une revue, numéro, qui sera consacrée aux élites, ce qui tombe plutôt bien, puisque c'est justement le thème de notre discussion ce matin. Alors Agnès Van Zanten, on a fait le constat d'un discours anti-élite assez important aujourd'hui. Alors il date pas d'hier, mais c'est vrai qu'il a été assez renforcé, disons, par les résultats du premier et du deuxième tour des élections régionales. Est-ce que vous y voyez, Agnès Van Zanten, dans ce discours anti-élite, une remise en cause, si ce n'est directe, en tout cas indirecte, du système scolaire qui a permis de produire ces élites?
Oui, je pense que ce n'est pas directement une remise en cause, mais c'est vrai que la production actuelle des élites favorise ce type de discours, parce que même si formellement, en fait, la sélection des élites commence assez tard, à l'entrée, par exemple, dans les classes préparatoires, en fait, le système fonctionne pour dégager une élite. Et très tôt, quand on interroge les jeunes issus de ces classes préparatoires, par exemple, des grandes écoles, on voit qu'ils ont eu des parcours particuliers, que très tôt, ils ont été dans les bonnes classes, dans les établissements de leur secteur, ou qu'ils ont été dans des établissements privés ou dans des établissements publics très prestigieux. Et donc, en fait, même si cela n'apparaît pas très visible dès l'extérieur, il y a un parcours des élites qui se dessine très très tôt pour certains enfants dès la maternelle, qui fait que ces enfants, finalement, ne se comparent qu'entre eux, se socialisent entre eux, et donc se crée une séparation très forte avec, à la fois, de la part des autres jeunes, le sentiment qu'il y a effectivement des parcours protégés, des voies à part qui sont très très mal vécues à tous les niveaux du système. Et donc effectivement, je crois que le système scolaire a une responsabilité dans la création des parcours spécifiques pour certains enfants qui ne sont pas désignés en tant que tels officiellement de l'organigramme de l'éducation nationale, mais qui de facto fonctionnent comme ça dans la réalité et qui sont totalement perceptibles par les jeunes, par les familles, avec ce sentiment que ce n'est pas pour nous et qu'il n'y a que pour certains que le système fonctionne.
Mais en même temps, on pourrait considérer qu'il y a une certaine logique à détecter assez précocement ceux et celles qui rejoindront justement les rangs de cette élite.
Il y a pas de vertu à cela, véritablement. On ne voit pas du tout que les systèmes qui détectent très tôt auraient des meilleures élites que les systèmes qui le font très très tard. En fait, grosso modo, il vaut beaucoup mieux former une classe d'âge entière au meilleur niveau possible et effectivement assez tardivement décider des voies qu'ils peuvent prendre. On voit bien dans les évaluations internationales comment la France creuse ses inégalités sociales, parce que le fait de dégager une élite met que beaucoup d'énergie est mise par les acteurs pour dégager cette élite au détriment des autres enfants, alors qu'on peut très bien investir dans la formation des très bons niveaux de la quasi-totalité, on va dire, parce qu'on trouvera toujours des cas difficiles d'une classe d'âge, et après consacrer beaucoup d'efforts plus tard dans l'enseignement supérieur, effectivement, à la formation des élites.
Le bon moment, c'est le passage dans l'enseignement supérieur.
Oui, aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup des chefs d'établissement, beaucoup d'enseignants qui croient encore que leur mission est de s'investir sur quelques-uns et qui donc trouvent qu'ils ont rempli leur rôle à partir du moment où quelques enfants sont passés, arrivent à entrer dans la voie étroite des élites au lieu de former la totalité des enfants à un très bon niveau. C'est un gros problème et je pense qu'il faut effectivement réfléchir là-dessus.
Jacques Attali.
Trois points. Premièrement, ce qu'on appelle les élites, c'est une conception du mot élite qui est complètement dépassée. On continue à penser les élites et les professeurs ou les maîtres dont on vient de parler, et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, continuent à penser les élites comme ceux qui vont faire les grandes écoles et qui auront des métiers assurés. C'est complètement faux. D'abord parce que c'est plus du tout vrai qu'ils auront des métiers assurés, ces gens-là. Et ensuite parce que les vraies élites sont ailleurs. Les vraies élites, c'est les médecins, c'est les chercheurs, c'est les patrons ou les animateurs sociaux, c'est les créateurs d'ONG, c'est les créateurs d'entreprises, dans les quartiers comme dans ailleurs. Donc il y a un total changement de la conception même des élites. Je dirais, pour renvoyer un paradigme qui m'est cher depuis longtemps, on est en train de passer d'une définition des élites sédentaires à des élites nomades. Et les grandes élites de demain, ce sont les élites nomades. Et plus les élites sédentaires qu'on continue à essayer de fabriquer. Premier point. Deuxième point, la grande réforme qui s'impose aujourd'hui, la première de toutes, celle que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, c'est les réformes de l'école maternelle. On ne peut pas, je le disais tout à l'heure, continuer dans l'esprit de ce que vient de dire madame, à faire en sorte que des enfants qui ont un milieu social qui leur permet à la fin de la maternelle de parler 700 mots soient mis en situation avec des gens dont le malheur veut que l'environnement personnel ne leur permet pas de parler 300 mots à la sortie de maternelle. C'est fini, c'est réglé, c'est terminé. Et donc, il faut, de façon extrêmement concrète, faire passer de l'encadrement des élèves en maternelle, dans toutes les maternelles, et en particulier dans les maternelles en situation difficile, de 1 pour 7 à 1 pour 3. Ça, c'est la réforme majeure qu'il faut marteler, comme devrait être dans tous les programmes présidentiels. Et troisième point, il y a un rattrapage à faire de tous ceux qui ont été exclus du système des élites, nouvelles, ce que j'appelle les élites nomades, pour appuyer sur le fait que c'est les élites mobiles qui comptent, et pas les élites sédentaires de l'ancien État corporatiste français, ça passe par la formation permanente. C'est pourquoi la réforme qui a été annoncée de la formation permanente des chômeurs est absolument cruciale. C'est absolument crucial. C'est comme ça qu'on va pouvoir rattraper ceux qui n'ont pas été les élites. Et pour le faire, il faut que cette formation permanente des chômeurs explose le système de formation permanente actuel, et je fais le pari qu'elle ne le fera pas.
Attendez, Jacques Attali, alors je reviens sur votre premier point. Si je vous suis bien, vous nous dites que, donc, que ces élites à l'ancienne qui ont fait les grandes écoles, elles ne servent plus à rien. Est-ce que vous dites que ça remet finalement en cause l'existant même de ces filières d'excellence?
Non, ces grandes écoles ont parfaitement compris. Elles sont de plus en plus en train de devenir des écoles de formation d'une élite flexible, internationale, créatrice d'ONG. Moi, je vois beaucoup de jeunes sortant de ces écoles qui ont envie de faire autre chose que d'être des hauts fonctionnaires. Donc, ces écoles ne sont pas idiotes. Elles sont excellentes, la plupart d'entre elles. Et elles ont compris que les élites de demain ne sont pas celles qu'on construisait auparavant. Donc, il ne faut pas casser ce qui marche. Il faut créer les conditions pour que ce qui ne marche pas fonctionne. Et ce qui ne marche pas, c'est l'école maternelle et l'école primaire et le système d'orientation.
Vous partagez ce constat, Agnès Van Zanten ?
Mais je vais revenir juste sur le point. Je partage tout à fait le constat, effectivement, qu'il faut investir vraiment dans les premières années de la scolarité, parce qu'effectivement, la production des élites, quand on dit en France, mais les élites, elles sont recrutées sur un mode méritocratique. Et c'est vrai que les jeunes qui accèdent, et notamment dans les classes préparatoires, ils vont travailler beaucoup. Donc, ils ont vraiment le sentiment qu'ils méritent leur place. Mais en fait, quand on analyse comment fonctionne le système, on voit qu'il y a une fabrication familiale des élites, qu'il y a un investissement des parents qui commence très, très tôt, dès la naissance, même avant, on pourrait dire aujourd'hui, avant la naissance de l'enfant, un accompagnement très très étroit de la scolarité à tout moment, et il y a un accompagnement, comme je l'ai dit, scolaire, qui propose des options, qui propose des types d'établissements qui sont réservés à certains types d'enfants. Donc il est très très difficile pour un enfant des milieux populaires être élu dès l'école dans des conditions où il ne bénéficie pas de ces parrainages familiales scolaires. Mais je voulais revenir aussi sur la question de l'internationalisation qui est tout à fait importante. Je pense effectivement que ce sont les élites d'aujourd'hui, sont des élites beaucoup plus internationales. Mais c'est vrai que le système français, il s'internationalise, mais il y a quand même des obstacles importants à cette internationalisation.
Qui sont de quel ordre, ces obstacles ?
Mais d'une part, elle commence assez tardivement parce qu'en France, on n'y croit pas beaucoup. Encore, les parents des milieux supérieurs et les jeunes ne commencent pas leurs études, par exemple, à l'étranger. Ils vont aller faire un master à l'étranger ou au milieu du parcours, mais ils ne vont pas faire des parcours à l'étranger, comme dans d'autres pays. On a beaucoup de mal à attirer des jeunes de très, très bon niveau dans nos grandes écoles françaises, parce qu'elles ne sont pas encore, elles ne sont pas suffisamment changées, leur mode d'admission, leur cursus, la langue d'enseignement. Il y a beaucoup d'obstacles, la façon dont le système licence, maîtrise doctorale et LMD s'est mis en place dans les grandes écoles et les classes préparatoires, n'est pas encore tout à fait adapté au système international. Donc certes, il y a des changements, mais il y a encore beaucoup d'obstacles à une circulation des élites dans l'enseignement supérieur vers la France et de la France vers l'étranger.
Vous parleriez d'une forme de conservatisme au sein de ces grandes écoles ?
Oui, je crois encore que les élites anciennes sont très très convaincues que l'atout national reste très important, qu'il faut d'abord avoir fait ses preuves au niveau national, avoir constitué ses réseaux au niveau national pour après partir à l'international et pour y rester finalement pour assez peu de temps. Quand on interroge les jeunes, on a fait une enquête interrogeant des jeunes qui sortaient de Sciences Po et qui sortaient d'Oxford, et on voit que les jeunes qui sortent d'Oxford se projettent beaucoup plus dans une carrière internationale et que les jeunes français disent je passerai 2 ou 3 ans à l'étranger et après je rentrerai en France. Donc c'est quand même des visions assez différentes.
Tout ça, et je partage tout ce qui est fait et être dit, pour être avec d'autres à l'origine du LMD, qui est le résultat d'une commission que j'ai présidée il y a quelques années, c'est certainement la grande réforme majeure qui a permis de créer des conditions d'une uniformisation ou d'un échange des diplômes et a permis à la France de se brancher sur le système international. Il faut bien prendre conscience que les changements dont Madame parle à juste titre ont commencé. L'école polytechnique a changé, Sciences Po a changé, avec même des choses qu'on peut...
Enfin, ça change doucement, hein, s'agissant de polytechnique. Il y a une réforme qui est en cours, oui. Qui a d'ailleurs été préconisée par quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, Jacques Attali, puisqu'il s'agit de Bernard Attali. Il avait remis un rapport en juin à Manuel Valls. Il y a des préconisations qui sont retenues. Il y en a d'autres, comme par exemple le classement de sortie, comme par exemple la fusion avec d'autres écoles d'ingénieurs, qui permettrait d'avoir une forme de masse critique pour cette école, qui ont été rejetées pour l'instant. Donc ça change doucement.
Enfin, je ne vais pas commenter là-dessus, mais beaucoup de choses très importantes ont été adoptées et d'autres le seront encore. Mais les changements qui sont ici, je ne crois pas, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, madame, je ne crois pas que les grandes écoles soient en retard. Elles sont malheureusement très bien conscientes des nécessités de changement. C'est le reste qui ne l'est pas. Les universités ne le sont pas. On ne peut pas reprocher aux grandes écoles d'avancer quand les universités sont à elles à critiquer parce qu'elles n'avancent pas autant. C'est Sciences Po qui a commencé à attirer les étudiants des quartiers en faisant des systèmes spécifiques. C'est Sciences Po qui fait des enseignements en chinois et en anglais pour les étudiants, pour attirer les étudiants étrangers. C'est beaucoup plus que les universités qui elles-mêmes, en raison de la mauvaise façon dont a été organisée la réforme de la décentralisation, sont devenues plus des universités régionales fermées sur leur recrutement local, dans la plupart des cas, on ne peut pas généraliser, il y a des exceptions, plutôt que de faire l'essentiel que vous avez dit vous-même, qui est d'attirer massivement les étudiants, d'aller chercher les étudiants étrangers de talent, non pas seulement d'attendre qu'ils viennent, d'aller les chercher, d'enseigner en partie en anglais, car c'est la condition pour que les étudiants étrangers de qualité viennent, et moi-même qui est un farouche partisan de la francophonie, je suis pour un enseignement en anglais lorsque ça permet d'attirer des étudiants de talent. Tout ça, les universités ne le font pas autant que serait nécessaire. Et en même temps, et je suis d'accord avec vous aussi, pour dire que ça devrait commencer beaucoup plus tôt. Nous restons, pour des raisons historiques depuis plus de 1000 ans, une nation sédentaire. Nous avons pas assez de Français à l'étranger. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous considérons le reste du monde comme une menace et non pas comme une opportunité.
Caroline Forest.
Cette internationalisation, paradoxalement, elle est peut-être aussi la source de ce malentendu, de cette déconnexion ressentie. Et je renvoie un peu à ce que commençait à dire Brice Couturier. Est-ce que le fait de passer d'un monde où le pouvoir des élites, du politique, ne peut être que transnational, appelle à ce que vous appelez, Jacques Attali, plutôt des instances ayant du pouvoir internationalement, est-ce que c'est un monde qui est accessible à tous ? Parce que ça pose la question aussi du démocratique. D'un côté, c'est vers là, effectivement, que se jouent les vraies élites de demain, qui seront nomades, qui seront peut-être accessibles à certains, mais quand même pas à tous. Et de l'autre côté, ça pose la question de la lisibilité démocratique auprès du plus grand nombre des citoyens à qui ça échappe.
Bien sûr, c'est la fonction du politique que de l'expliquer, de créer les conditions pour que ça soit au bénéfice de tous. Mais la France a tout à gagner à expliquer qu'elle a vocation à être une nation universelle. Elle a toujours été, c'est son histoire. Elle a toute vocation à être la grande nation demain d'accueil. Quel est le meilleur pays pour vivre au monde que la France ? Quel est le seul pays au monde dont
c'est
on a...
C'est pas ce que disent les sondages les plus récents. On est tombé 26e selon l'ONU.
Selon certains classements, mais il n'en reste pas moins que le seul pays au monde dans lequel il y a eu des attentats et dont tout le monde, la planète entière a chanté l'hymne national et s'est éclairé aux couleurs nationales, c'est ni le Mali, ni la Russie, ni les autres pays qui subissent les attentats, c'est la France. Donc nous sommes un pays absolument admiré du monde, et nous sommes encore porteurs de valeurs universelles, et nous sommes potentiellement une nation qui a, pour tous ses habitants, beaucoup à gagner au mouvement. Donc, quand vous avez parlé d'élite et de politique, non, les élites sont plus politiques. Les élites sont ailleurs. C'est la France qui a inventé Médecins sans frontières. Les grandes ONG sont d'origine française. Nous sommes porteurs de ces valeurs. Et c'est ça, les nouvelles élites. Les nouvelles élites, elles sont plus dans l'État. Elles sont dans les nouvelles structures d'épanouissement, de réussite de sa vie, qui sont ailleurs que dans l'État.
Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui a été faite par l'ENA sur les diplômés des 30 dernières années qui témoigne effectivement de ce changement, puisque 5% seulement des diplômés exercent aujourd'hui des responsabilités politiques. La plupart se retrouvent davantage dans le monde de l'entreprise. Agnès Van Zanten, pour revenir un petit peu à la question du renouvellement des élites et de voir comment l'école et la formation scolaire peut contribuer à un meilleur renouvellement, en tout cas peut-être à une meilleure représentativité. On a tous en mémoire, on en parlait d'ailleurs il y a un instant, de tous ces programmes qui ont été lancés. Notre premier, c'était par Sciences Po Paris, avec ces fameuses conventions d'éducation prioritaire, ou conventions ZEP, comme on les appelait, puisqu'à l'époque, il s'agissait d'aller recruter des étudiants de Sciences Po dans les zones d'éducation prioritaire. Ça, c'était en 2001, on est en 2015. Est-ce qu'on a le recul suffisant pour considérer que ça a favorisé un renouvellement des élites, ou bien est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt pour en juger?
Alors, nous menons en ce moment justement une évaluation sur cette politique des Sciences Po, dont nous devons rendre un rapport dans 2 ou 3 mois. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Sciences Po a lancé cette initiative, que l'on peut voir comme une forme de parrainage compensatoire. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de jeunes issus des quartiers, des lycées situés dans des quartiers défavorisés. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine. Au départ, il n'était que 7. Donc, ça, c'est un petit effet de masse. Bon, ça ne représente qu'une minorité d'étudiants à Sciences Po, mais c'est vrai qu'il y a une forme de renouvellement qui s'est fait. Dans les autres établissements, on a lancé des politiques un peu moins ambitieuses, et donc finalement, il y a assez peu de jeunes qui ont intégré, et notamment parce qu'il y a eu aussi la barrière des classes préparatoires, que Sciences Po n'a pas, et ça c'est très important.
Et les universités, pourquoi les universités ne le font-elles pas?
Alors les universités n'ont pas tout à fait le même public, parce que bon, il y a université, mais il y a des universités qui ont des publics très populaires, donc ils n'ont pas à faire ça, mais il y a un certain nombre d'universités qui sont engagées dans ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Simplement, moi, ce qui me préoccupe en tant que sociologue de l'éducation, c'est qu'effectivement, si on envisage seulement de façon très très étroite le renouvellement des élites, on peut dire qu'à Sciences Po, on a effectivement obtenu un certain renouvellement des élites par cette voie. Mais ces mécanismes n'ont pas engendré une dynamique d'ensemble dans les lycées. Donc on ne peut pas du tout parier sur ces dispositifs pour transformer profondément les inégalités sociales d'éducation en France. C'est un dispositif qui permettra, s'il fonctionne bien, s'il est ambitieux, de renouveler jusqu'à un certain point les élites. Mais renouveler les élites, c'est un objectif très différent de lutter contre les inégalités sociales. C'est pas du tout la même chose.
Jusqu'à un certain point, en 2010, dans Le Monde, Agnès Van Zanten, vous écriviez ceci, ces mesures, donc on parle de ces mesures de discrimination positive, je sais pas si le terme est très approprié, mais ces mesures rencontrent un écho très favorable dans les partis politiques parce que leurs membres adhèrent à des initiatives qui légitiment le modèle de formation des élites dont ils sont le produit. Mais finalement, ça sert à quoi d'avoir une meilleure représentativité des élites si elles continuent de fonctionner de la même manière?
C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le terme des parrainages compensatoires. En France, comme dans des sociétés, c'est le cas également en Angleterre, on croit assez peu à la capacité à des jeunes qui sont issus des milieux défavorisés à tout simplement comme ça devenir des élites. On pense qu'ils doivent suivre un parcours particulier parce qu'il faut être socialisé aux mœurs de l'élite. En Angleterre, c'est plus fort encore parce qu'il y a une dimension sociale qui est plus encore prégnante qu'en France. Mais en France, on croit beaucoup au fait qu'il faut une socialisation scolaire très longue dans des modèles culturels particuliers pour pouvoir appartenir pleinement aux élites. Donc, de ce point de vue, effectivement, on peut sélectionner quelques-uns à qui on donne un suivi particulier, qu'on va suivre, etc. Et ça peut renouveler les élites, mais toujours à l'intérieur du même modèle. On est très loin d'un modèle qui serait tout le monde est en compétition pour l'accès aux élites et en provenance des différentes universités, des différents droits, on peut accéder aux élites. C'est pas le modèle français.
Brice Couturier.
Je tiens un léger froid sur cette discussion. Et honnêtement, les élites actuelles en France, elles ont plusieurs caractéristiques. Premièrement, elles sont microscopiques si on les compare au reste du monde. Les élites britanniques issues d'Oxbridge, on sait qu'à Oxford, il y a 36 collèges, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants tous les ans. L'ENA et Polytechnique, c'est quelques centaines, premièrement. Deuxièmement, elles ne sont pas renouvelées. Elles sont auto-reproduites et elles ont une fâcheuse tendance à vivre ensemble. On ne compte plus le nombre d'hommes politiques qui vivent avec des journalistes célèbres. Elles sont coupées du reste de la société. Elles sont extraordinairement isolées et on le voit dans le fait que leurs valeurs ne sont pas celles de la société. Ensuite, elles ont fusionné entre elles et ça c'est une grande caractéristique de la société française, des élites françaises. Comme je le disais tout à l'heure, le président de General Motors n'est pas le président des États-Unis et leurs intérêts divergent. En France, ce sont les mêmes hauts fonctionnaires qui dirigent les banques, les partis politiques, les grandes administrations, les grandes entreprises et parfois les universités. Donc c'est quand même, ça pose un certain nombre de problèmes. Nous avons supporté en France ce système élitiste, nous l'avons encouragé parce qu'il fonctionnait très bien. Sous les 30 glorieuses, nous avons connu une croissance très forte, un chômage extrêmement faible et un niveau de protection sociale exceptionnel. Cela est fini. Cela est fini et quand on voit effectivement ce sondage que l'ONU a rendu public la semaine dernière, qui montre que les trois premiers pays les plus agréables à vivre au monde sont dans l'ordre la Norvège, l'Australie et la Suisse, on voit que la France a dégringolé à la 22e place. Donc c'est plus du tout un pays agréable à vivre. C'est peut-être formidable pour les élites, elles vivent très bien effectivement dans ce pays, elles sont très bien protégées, elles sont très bien auto-reproduites, elles vivent dans des quartiers formidables, mais pour le reste de la population, la situation est terrible, parce que nous avons plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, et que ces élites ont failli, et maintenant la société leur demande des comptes.
Jacques Attali.
On vient d'entendre un discours que je ne qualifierai pas, parce qu'il est...
Populiste, allez-y.
Pire que populiste, il est archéo-populiste. En fait, vous n'étiez pas là quand j'expliquais tout à l'heure que les élites dont vous parlez ne sont plus les élites. C'est les élites dont vous êtes vous-même le miroir par l'activité que vous représentez, c'est-à-dire celle qui consiste à travailler avec eux, se faire financer par eux, obtenir de contrats, etc., etc. Mais c'est plus du tout ça les élites. Les élites, c'est les créateurs. Les élites, c'est ceux qui créent des entreprises, ceux qui créent des ONG, ceux qui créent des associations. Moi, j'en vois tous les jours dans les quartiers ces élites. C'est ça les vraies élites du pays. Elles sont pas du tout celles dont on parle là. Elles sont nomades, elles sont pas sédentaires. Et celles-là, je vous assure qu'elles sont en train de révolutionner le pays de l'intérieur profondément. Elles ont plus rien à faire de ce qui se passe.
Alors laissons-les faire. Laissons-les faire et laissez la place.
Mais vous dites laisser la place, mais ils n'ont pas besoin de laisser la place. Vous êtes encore dans un paradigme vieux, complètement dépassé. Il ne s'agit pas de laisser la place, ils sont en train de la prendre la place. Ils la prennent ailleurs que là où vous croyez où est le pouvoir. Le pouvoir n'est plus là. Il est là où se trouve la création artistique, la création d'entreprises, la création de recherche, la création d'initiatives sociales, la création d'ONG. C'est là la réalité du pouvoir et c'est là où les élites sont en train d'apparaître. Et les vieilles élites meurent sur pied.
Mais pourquoi est-ce que ces nouvelles élites n'investissent pas davantage le terrain politique, selon vous, Jacques Attali ?
D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on en voit apparaître progressivement. Et ensuite, parce que, premièrement, les vieilles élites, celles de ces élites sédentaires, ont encore le pouvoir. Et qu'en France, à la différence d'autres pays, on fait carrière politique, on vit dans la politique. On est là pour 50 ans dans la politique. On a enfin interdit le cumul des mandats. On n'a toujours pas interdit les mandats permanents et des gens restent 50 ans dans les mêmes postes. Donc comment voulez-vous renouveler ces élites ? Et la seule façon de les renouveler, c'est de devenir attaché parlementaire pour faire une carrière. Donc évidemment, ils n'ont pas envie de faire ça. Et comment en plus la vie politique est de moins en moins intéressante, plus en plus le lieu de recevoir des coups, plus du tout le lieu de créer et de faire des choses, mis à part dans les communes ou dans les régions, personne n'a de raison de faire de la politique. Il vaut mieux créer une association, une ONG, je sais de quoi je parle.
Il y a une petite musique qui est franchement inquiétante, qui consiste à répéter en gros que quand des enfants de familles juives pauvres font des grandes écoles et donc deviennent des élites, eh bien au fond ce sont des vieilles élites qui monopolisent le pouvoir parce que elles viennent des grandes écoles. Et quand des enfants de l'immigration maghrébine font enfin elles aussi des grandes écoles, on leur reproche de devenir des élites qui copient les autres vieilles élites et qui donc s'auto-reproduisent.
Qui dit ça ?
Non,
pas moi en tout cas.
Non, pas vous, Jacques. Mais
oui, vous l'entendez où cette petite musique, Caroline ?
Mais je l'ai entendue par bribes dans la façon dont on a de revenir, dans la façon dont nous-mêmes journalistes nous avons de poser cette question en permanence de la reproduction réaction des élites. Je l'ai entendu un tout petit peu aussi dans le discours de Brief qui consiste à dire qu'en gros, des élites qui pensent la même chose, c'est-à-dire qui adhèrent aussi à un substrat minimum de valeur de la République, c'est l'autoreproduction et c'est une
façon... Non, c'est absolument pas ce que je dis, hein, je veux corriger. Ce que j'entends par autoreproduction des élites, c'est très clair, c'est ce que disait Bourdieu, à savoir les héritiers, le fait que les énarques aujourd'hui sont de plus en plus des fils d'énarques et non pas des fils d'ouvriers comme ils l'étaient encore il y a 40 ans.
D'accord.
C'est ça que j'entends.
Alors, là-dessus, on peut
tous
être d'accord.
Ce que j'ai dit alors que vous n'arriviez tout à l'heure.
Là, on peut être d'accord, mais encore une fois, est-ce que être la nouvelle élite, ça consiste à être forcément, là, c'est pas ce que disait Brice, est-ce qu'il faut ne pas vouloir, par exemple, avoir un minimum de culture générale, ne pas vouloir adhérer à un certain nombre de valeurs, encore une fois, de fraternité et d'égalité minimale? De qui on parle? Si on parle d'universitaires qui, effectivement, font des carrières dans des bocaux et qui sont un peu stratosphériques, peut-être, si on parle de politique, qui, pour le coup, eux, sont trop connectés et sont pas du tout déconnectés, mais qui font que du court-termisme, c'est encore autre chose. Et si on parle des élites économiques, peut-être que c'est des élites nomades souhaitables, mais enfin, elles non plus, elles n'ont pas forcément des valeurs toujours très enviables en termes de nouvel élitisme. Donc, en fait, on parle de choses extrêmement différentes sous ce mot.
Les vraies élites de demain, c'est-à-dire celles d'aujourd'hui, sont des élites altruistes, parce qu'elles ont compris que l'altruisme est la seule façon de réussir sa vie. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui est en train d'émerger. Qu'elles émergent dans les grandes écoles, qu'elles émergent dans les universités, qu'elles émergent hors du système, qu'elles émergent dans la politique, est anecdotique.
Agnès Van Zanten.
Oui, ce que vous dites est tout à fait important. Je pense qu'il faut distinguer clairement, d'un côté, le renouvellement social des élites, mais si c'est un renouvellement social qui épouse toujours les voies très étroites de la formation des élites actuelles, effectivement, ça tombe toujours sur la critique qu'on ne fait que reproduire le modèle tout en changeant un tout petit peu les personnes. Je pense qu'il faut à la fois un renouvellement social profond, mais aussi un renouvellement de la formation des élites. Est-ce que l'acquisition des valeurs, est-ce que c'est la passe par la voie étroite qu'existe aujourd'hui des formations des élites? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a diverses façons de former des élites. Et pour revenir à ce que disait Jacques Attali, à former différents types d'élites qui peuvent être formées dans différents lieux dès l'enseignement supérieur. Il faut avoir une diversité des lieux. C'est pas, éliminer les grandes écoles. Ce n'est pas éliminer les universités. C'est créer une diversité des lieux d'où émergent différents types d'élites qui peuvent effectivement occuper des positions différentes et avoir des intérêts divergents dans la société.
C'est le cas aujourd'hui. Pour créer cette diversité, Agnès Van Zanten, est-ce que ça signifie, selon vous, qu'il faut peut-être aplanir un petit peu les différences entre le monde universitaire et le monde de ces grandes écoles? Je reviens sur cette réforme de Polytechnique avec ce projet de fusionner Polytechnique avec d'autres grandes écoles d'ingénieurs, ce qui aurait peut-être eu pour effet de diluer un petit peu la singularité de Polytechnique dans un certain nombre d'autres établissements. Est-ce que c'est une voie qu'il faut envisager, ou bien est-ce qu'il faut garder quand même cette hiérarchie-là tout en produisant des élites dans un certain nombre d'établissements différents?
On ne peut pas annuler quand même l'histoire et les traditions, etc. Je pense par exemple, si on avait véritablement une politique volontariste pour les pôles d'excellence dont on parle aujourd'hui, les presses, les regroupements, etc., on peut imaginer bien sûr des lieux dans lesquels on a des établissements des différents types et dans lesquels on a des universités, des grandes écoles, des IUT et différents types des formations des niveaux supérieurs qui communiquent entre elles, mais qui ce n'est pas simplement un regroupement factice comme ça peut l'être aujourd'hui dans un certain nombre de cas, mais un regroupement où il y a effectivement des synergies, des mouvements, où les étudiants peuvent avoir des passerelles, on peut commencer à un niveau et poursuivre dans l'autre. Ça serait un très bon modèle dans lequel on n'annule pas la diversité, mais on crée des synergies entre nos différents types d'institutions d'enseignement supérieur.
Jacques Attali, si vous deviez reprendre des études aujourd'hui, vous choisiriez quelle filière ou quelle école?
Je pense que je ferai plus d'études d'archéologie, j'apprendrai le chinois un peu plus vite, et je ferai des études d'art, sans doute, un peu plus d'études de musique que je n'en ai fait encore. Par rapport à la discussion que nous avons jusqu'à présent, je dirais que très souvent en France, on a le sentiment que la meilleure façon de changer les élites, c'est de détruire celles qui existent. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qu'il faut. Autrement dit, il ne faut pas détruire les grandes écoles, il faut créer les conditions pour que les universités soient meilleures. Et au lieu de pointer du doigt ce qui marche, il faut pointer du doigt ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, ce n'est pas les grandes écoles. Ce qui ne marche pas, c'est les universités, c'est les IUT, c'est les conseillers d'orientation, c'est les écoles maternelles. C'est ça qu'il faut améliorer, sans casser ce qui marche.
Un tout petit mot de Brice.
J'ai entendu un jeune créateur d'entreprise en banlieue me dire la chose suivante. L'ascenseur social est en panne, nous avons pris l'escalier de service. Prenez l'escalier de service.
Il travaille à Sciences Po.
Je crois même que c'était le titre d'un ouvrage qui a été publié il y a quelques années. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir participé à cette discussion, Agnès Van Zanten et Jacques Attali.